J'ai deux textes dans la Gemara pour illustrer les analyses que nous avons faites mardi soir et mercredi soir. Alors, vous prendrez comme première page la Gemara de Cholim, celle qui est marquée 120 en haut. Bien, le premier sujet. Le premier sujet que nous avons eu, donc mardi soir, concernait le problème de la finalité, du fait que l'identité humaine se présente dans l'existence sous forme duelle, ce qui pose le problème du couple, de la définition du couple. Bien entendu, c'est une des questions qui peut être envisagée par rapport au fait du couple. Il y en a évidemment d'autres. Par exemple, le fait que nous n'avons pas en réalité en hébreu le terme pour dire couple. Nous nous servons du mot zoug, mais évidemment dérivé du grec. Et quoi qu'il en soit, ça signifie que pour la tradition juive, l'essentiel de l'identité qui est représentée par la notion de couple apparaît dans la relation entre deux personnes. Et cette relation entre deux personnes elle-même fait apparaître une différence entre les deux sujets. Nous avons analysé un certain nombre de problèmes sur cette question. Et il y a un texte fondamental et classique dans la Gemara de Chulin qui concerne ce problème, mais sur un sujet bien précis que je voudrais vous introduire très brièvement, et qui est celui du fait que, inévitablement, lorsque deux êtres capables tous les deux d'être sujets sont en relation, il y a non seulement une différence, car s'il n'y avait pas de différence, il n'y aurait pas de dualité, il y aurait identification, et nous avons aussi rattaché ce problème à la catégorie de la création elle-même. Pour que la créature puisse exister, il faut qu'elle soit différente du créateur, ce qui signifie tout de suite pour notre problème, donc inférieur. Il suffit d'un raisonnement simple pour comprendre que s'il y avait égalité d'essence, disons, entre la créature et le créateur, il y aurait identification entre le créateur et la créature, et donc la condition de notre existence spécifique est qu'il y ait une différence avec la source de l'être. Et donc, il en résulte, évidemment, par définition, qu'il ne peut y avoir qu'infériorité. Il s'attache donc une sorte de malheur, enfin, on trouvera peut-être un mot plus précis tout à l'heure, il s'attache une sorte de malheur à la condition de l'autre, du fait de celui qui est l'autre, et le modèle étant la créature elle-même, dans le sens le plus général. Par définition, la créature, pour assumer son existence, son projet de devenir, doit donc assumer dans le principe, ce que l'on nomme en hébreu « messirut nefesh », le fait d'assumer, au niveau de sa personne même, une sorte d'infériorité de destin, de décalage avec ce que le plus profond de l'être en nous-mêmes reconnaît comme devant être l'être absolu, et que nous ne pouvons pas, par définition, atteindre pour pouvoir être précisément. C'était l'objet d'une des analyses de mardi soir. En effet, le texte que nous allons étudier, qui commence à la quatrième ligne de la page de Chulin, est précédé d'un enseignement que vous n'avez pas dans cette page et qui dit ceci en parlant de toutes les créatures sauf l'homme. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, dans la page précédente, Kol ma'ase bereshit bekomatam nivreu, bedartam nivreu, betivyonam nivreu. C'est-à-dire tout ce qui existe dans l'œuvre du commencement, c'est-à-dire tout le Ma'asé Bereshit, toutes les créatures, mais sauf l'homme, ont été créées conformément à leur projet. Alors que nous avons vu que pour l'homme, il y a un décalage entre ce qui devrait être le projet abouti, c'est-à-dire une existence de plénitude, un être de plénitude, et l'existence dans l'histoire, et l'interprétation de cet enseignement immédiatement précédent nous montre bien qu'il y a une différence de destin entre toutes les créatures, d'une part, et l'homme, d'autre part. L'homme ne coïncide pas avec son modèle, et c'est précisément dans ce décalage entre notre existence et son projet, son modèle, son image, dans le sens biblique du terme de Tselem, qui fait précisément toute l'histoire, toute la tension du devenir, et qui donc se manifeste dans la réalité duelle du couple. Couple qui n'existe pas dans les autres, chez les autres créatures. Comme nous l'avons vu, je ne voudrais pas revenir trop longtemps sur l'analyse des détails. Et immédiatement après, le Ma'amar que nous allons étudier indique que dans le cas de l'homme, puisqu'il n'en est pas ainsi, puisque semble-t-il cette coïncidence entre l'existence et son modèle pour toute créature, ce qui implique, d'après le commentaire de cet enseignement, que tout se passe comme si Dieu a demandé consentement à la créature avant de la créer, Bedartan Libreu, eh bien, ce n'est pas complètement le cas pour l'homme, et qu'il s'attache une sorte de malheur à la condition de l'être autre, déjà au niveau de l'être de la créature. Et ce problème va donc se refléter au niveau de tout couple. Dans tout couple, pour qu'il y ait différence, pour qu'il y ait donc présence de cette relation d'autrui à autrui, il faut qu'il y ait décalage, d'une quelconque manière, d'un côté au moins. Ce problème va nous être posé par rapport à l'identité humaine, avec comme modèle ce que le récit de la Genèse nous dit de la création de l'univers. C'est ce texte-là que nous allons prendre. Alors, voici d'abord quel est le verset. Si vous voulez noter la référence, il s'agit du verset, d'abord du verset 16 du chapitre 1 de la Genèse. Le projet de la création des lumières indique Yehi Meorot, qu'il y ait des lumières. Et donc, dans le principe, il n'y a pas de différence entre les lumières. Ils devraient être égaux. Mais au verset 16, lorsque la Torah raconte la réalisation du projet, alors voici le texte. Et Dieu fit les deux grands luminaires. Donc, dans la première expression, les deux luminaires sont appelés tous les deux Gedolim, grands. Et Tamaor Agadol, le luminaire grand, le même chez les Tayom, pour la souveraineté du jour. Et Tamaor Akaton, et le luminaire petit, le même chez les Talayra, pour la souveraineté de la nuit. C'est ce décalage verbal, déjà, au niveau de l'expression du verset, qui sera pris comme modèle par la Gemara, pour poser justement le problème que je vais essayer d'analyser, la différence de stature, si vous voulez, entre les deux personnes d'un couple, quel qu'il soit. Mais nous allons y réfléchir au niveau de la première catégorie de couple, homme et femme. Ensuite, nous aurons un deuxième texte qui concerne déjà cette relation homme-femme, mais qui l'élargit à toute nature de couple, en particulier celui que nous avons étudié hier, c'est-à-dire le couple frère-frère. Ce sera le texte de Brachot. Bien, à propos donc de cette particularité de notre verset, les luminaires sont appelés tous les deux grands, et immédiatement après, l'un est grand et l'autre est petit. La Gemara nous dit, donc, ligne 4, Rabbi Shimon ben Pazi. Rabbi Shimon ben Pazi enseigne, objecte, qu'est-il ? Il est écrit, Vayara Selokim et Chenea Meuro Tagedolim. Il est écrit, Dieu a fait les deux grands luminaires, Urtiv, et pourtant il est écrit immédiatement après, Et Hamao Agadol, Et Hamao Agaton, le luminaire grand et le luminaire petit. Voici, selon Rabbi Shimon ben Pazi, ce qui se passe. Il s'est passé quelque chose entre ces deux parties du verset. Primitivement, les deux luminaires devaient être grands, comme s'il ne devait y avoir aucune différence. Ce qui reposait un problème de logique ontologique, si j'ose dire. Si nous nous référons au raisonnement de tout à l'heure, pour qu'il y ait relation d'autrui à autrui, pour qu'il y ait altérité, pour qu'il y ait différence. Et cette différence ne peut être que celle de l'infériorité de l'un par rapport à l'autre. Un des commentateurs posa la question suivante. On voit presque le tragique, en tout cas le dramatique, de cette angoisse qui s'attache au malheur de la condition d'être autre, c'est-à-dire diminuer, comme nous l'avons vu déjà précédemment. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu, au lieu de diminuer l'un, agrandir l'autre? Et cette objection reste en suspens jusqu'à ce que l'on se rende compte que la question se pose déjà au niveau de la catégorie la plus globale de l'altérité, c'est-à-dire le créateur et la créature. Et pour que la créature existe, il ne peut y avoir que diminution de l'absolu du créateur, puisque la notion de l'accroissement de l'absolu du créateur de telle sorte que la créature soit au niveau de l'absolu lui-même, serait contradictoire. Il, semble-t-il, s'attache à quelque chose de l'ordre qui est très proche de l'ordre d'une certaine fatalité. Nous aurons à évacuer ce terme, puisque ces catégories de fatalité, de tragique, ne font pas partie de la cohérence de l'enseignement biblique. Mais malgré tout, la Torah veut nous faire comprendre ici, à l'aide de cet enseignement de la Gemara, en tout cas la perspective d'une certaine lucidité dès l'origine du récit, concernant les conditions existentielles de cette catégorie de l'altérité. Inévitablement, il y a diminution, mais cette diminution entraîne non pas supériorité de l'un par rapport à l'autre, mais ceci nous le trouverons dans la conclusion, mais dans l'expérience existentielle, l'expérience d'une diminution de l'autre par rapport à l'un, d'où une sorte d'expérience de malheur qui s'attache à la condition de l'être autre. Eh bien, c'est que entre ces deux expressions, les deux grands luminaires, et ensuite le luminaire grand et le luminaire petit, voici ce qui s'est passé, selon Rabbi Shimon ben Pazi, Amra Yareach, la lune a dit. C'est-à-dire, a posteriori, nous savons que ce drame va concerner la lune, puisque visiblement, par rapport au soleil, la lune est plus petite. Amra Yareach, la lune a dit, Ifnei HaKadosh Baruch Hu, devant le Saint des Misvatim, Ribono Shel Olam, maître du monde, Efshar lishnei melachim shehishtamshu beketer echad, point d'interrogation. C'est-à-dire, est-il possible que deux rois se servent de la même couronne? Ce qui signifie que, a priori, ce dialogue entre la créature et le créateur commence dès l'origine, au niveau du projet. Les deux luminaires étaient tous deux grands. Donc, dans un principe de projet, puisque nous, comme nous venons de voir et que nous verrons encore, dans l'existence, il est inévitable qu'immédiatement l'un soit plus petit que l'autre, pour que l'histoire du monde créé commence. Et donc, lorsque la lune, Yareach, a posé cette question, elle était encore dans la stature de la grandeur et d'égalité, avec donc, admettons, le soleil. Quoique ce n'est vraiment qu'à un certain niveau de lecture que dans ces deux luminaires nous devons lire le soleil et la lune. Il y a là, premièrement, la référence à ce qu'on pourrait appeler toute présence. Toute présence se manifeste dans une existence duelle. La lumière se donne dans deux visages à la fois pour que la créature apparaisse. Et c'est cela d'abord, les deux luminaires. Ensuite, beaucoup plus bas, dans le niveau des mondes, jusqu'à notre monde de l'extériorité, alors la lumière apparaît à travers le soleil et la lune, mais je dirais, si vous voulez, que la lune et le soleil, ici, sont des images de ce que la Torah nous nomme les luminaires. Maor signifie en hébreu le support de lumière. Or, maor, le support de lumière, le keli, le véhicule de la lumière et de toute présence. Inévitablement, pour qu'un monde apparaisse, il faut qu'il y en ait deux, comme nous l'avons déjà compris. Mais ici, lorsque la lune pose cette question, Yareach, alors c'est qu'elle était encore au stade où il y avait égalité. Ce n'est pas le soleil qui a demandé que la lune soit diminuée, comme nous voyons tout de suite. C'est la lune qui pose d'abord une question préjudicielle. Est-il possible que nous soyons égaux? Toute une perspective du commentaire, vous le devinez déjà, impliquera que c'est donc qu'il y avait un souhait implicite que ce soit l'autre qui soit diminué, que Mida Kenedel Mida, c'est donc l'un qui a été, celui qui a posé la question. Mais ce n'est pas si simple que ça. Car la Gemara va nous dire que de lui-même on reconnaît que la question est logique. Ben, une fois de plus, du point de vue de la méthode, vous rencontrez dès le commencement de la lecture l'incommensurable humour de la Gemara. Amarla, alors Dieu lui répond, la question a été, peut-il y avoir égalité? Pour qu'il y ait existence, il faut donc cette sorte, entre guillemets, de fatalité de l'inégalité. Si les choses étaient égales, elles seraient même, donc pas. Je vous rappelle ce que je cite souvent à ce propos, qu'en hébreu, le mot qui signifie égal est très proche sémantiquement du mot qui signifie vain, dans le sens de vanité. Shavé signifie égal, shin vav he, shav signifie vain, shin vav ale. Tout se passe comme si à la limite, ça signifie que ces deux choses sont égales, une est de trop. Et laquelle des deux? Les deux. Et il ne peut y avoir égalité que dans le monde très intérieur ou très supérieur des valeurs. Il y a équivalence des valeurs, équivalence de dignité. Mais dans le monde manifesté, il ne peut pas y avoir d'égalité, sauf en mathématiques, où 10 fois 1, ça fait 1 fois 10, et donc aussi dans le commerce, où apparemment 10 fois 1 franc, c'est 1 fois 10 francs. Partout ailleurs, par exemple, prendre à la fois
10 cachets d'aspirine, en une fois 10 cachets d'aspirine ou 10 fois un cachet d'aspirine, ça n'a pas le même résultat, etc. Alors je lui réponds, Amarla, il lui a dit, Léchi, va, Mati et Trasmer, et diminue-toi. Oui, l'expression ne dit pas ici je te diminuerai, ou que la Gemara raconte que Dieu l'a diminué. Mais Dieu lui propose une solution. C'est un projet. Il faut trouver une solution pour que l'existence commence. Alors va, si déjà tu as compris le problème, alors prends l'initiative de va et diminue-toi. Et le drame commence là. Amra les fanal. Alors elle dit devant lui, c'est Bruno Shalala, maître du monde, Ruiz et Amarti le Fanecha d'abord Hagun Amhaitet Atsmi. Maître du monde, je vais parler un peu mauvais français, on ne peut pas faire autrement. Alors c'est parce que j'ai dit devant toi une chose logique, d'abord Hagun, convenable, que je vais me diminuer, dire le drame qui s'attache à la lucidité de la cohérence logique et qui va être la. Comment dire, la raison de cette diminution, punition parce que logique, puni parce que cohérente. Hein? Amarla, Dieu lui répond, Léchi, Mouchol, Bayom, Ubalaïla. Va, et tu domineras, tu gouverneras, plus littéralement, le jour et la nuit. Et voilà de quoi il s'agit ici. Vous savez que, selon le principe du calendrier hébreu, et les années sont solaires et les mois sont lunaires. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse qui me semble nécessaire d'analyser même du vocabulaire pour comprendre la cohérence de cette première réponse de Dieu comme s'il y avait ici une compensation. Et le sens apparent de cette formule, c'est que alors que le soleil n'éclairera que le jour, bientôt je vais te donner une compensation, tu éclaireras la nuit, ce qui est normal, mais aussi un peu le jour. De temps en temps, il y a la lune dans le jour. Comme s'il y avait la compensation. Alors, pour aborder le contenu de cette formule, j'aurai besoin d'une petite introduction concernant la cohérence du calendrier hébreu. Comme vous le savez, il y a différentes sortes de calendriers possibles. Soit un calendrier qui mesure le temps selon la révolution du soleil, soit un calendrier qui mesure le temps suivant la révolution de la lune. Comme exemple de ces deux sortes de calendriers, pour les cultures qui nous sont les plus proches, nous avons le calendrier chrétien, qui est un calendrier solaire, et qui par conséquent a une mesure du temps lunaire, du mois lunaire, divisé artificiellement. Je veux dire, le mois qui originellement est la révolution de la Lune est reporté dans l'année solaire de type occidental par une division artificielle de 12. Bien. Ou bien vous avez le calendrier musulman, qui est un calendrier uniquement lunaire, c'est-à-dire qui compte les années par rapport au mois à la révolution de la Lune et qui par conséquent est en perpétuel décalage concernant les rythmes de l'année solaire qui sont les rythmes des saisons, des Tkoufot. Alors que le calendrier hébreu a pour originalité d'être solaire pour les années et lunaire pour les mois. Sans entrer du tout dans les détails de ce problème, première remarque, nous avons finalement une coïncidence rigoureuse et absolue à la seconde près tous les 19 ans entre la révolution de la Lune et celle du Soleil. Vous savez que la révolution de la Lune est toujours en décalage sur celle du Soleil, mais tous les 19 ans, rigoureusement, absolument à la seconde près, il y a coïncidence. C'est pourquoi le calendrier hébreu est calculé une fois pour toutes sur 19 ans et se répète exactement le même que les 19 ans. Et le décalage qu'il y a entre le temps lunaire et le temps solaire est récupéré, comme vous savez, par le fait que l'on ajoute 7 fois en 19 ans un 13e mois aux 12 mois de la vie. Bien, je termine cette première remarque, mais la notion du temps telle qu'il est mesurée par rapport au soleil et la notion du temps telle qu'il est mesurée par rapport à la lune est très différente dans la mentalité hébraïque. Et nous allons apprendre immédiatement des termes mêmes qui signifient l'année solaire et le mois lunaire. Bien, l'année en hébreu se dit shana. Et ce terme de shana se rattache à une racine qui signifie le changement, le renouvellement, mais dans le sens de la répétition. Shinui, par exemple, sheni, signifie deuxième. Il y a un, premier, puis deuxième, sheni. Mais dans le sens que c'est une fois encore
ce un répété. Le shinui, c'est un changement dans le sens de répétition. Vous avez la racine shamen, avec le redoublement de la deuxième lettre qui signifie répéter, incruster. Et ça signifie que dans cette mentalité, je vais assez rapidement parce qu'il y a différentes formules à analyser, dans cette signification linguistique, le temps conçu comme temps du soleil est un temps où, paradoxalement, c'est paradoxal ce que je dirais là, il ne se passe rien, parce que tout se répète. Vous vous rappelez de cette formule de l'Ecclésiaste, En Hadash Tahat HaShemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il faut mettre l'accent sous soleil. Parce que sous la lune, c'est différent, comme nous l'avons. Ça renouvelle d'ailleurs un peu le sens du verset, mais c'est le chapitre. C'est un temps où il y a un contenu d'existence. Mais en fin de compte, il ne se passe rien à l'échelle de la durée, parce que tout se répète. Cette dimension du revenir, du retour, c'est de ce qu'on renvoie effectivement à toute une mentalité de l'histoire, du temps, de la durée, du monde qui n'est pas la nôtre, puisque c'est une des perspectives possibles, un temps qui se répète et donc où rien ne se passe. Et nous verrons l'importance de cette indication tout à l'heure. Puisque ce temps se répète, rien ne se passe. L'année est la répétition de l'année précédente. Et d'où ces thèmes, ces mythes de la grande année, du retour cyclique et en fin de compte, d'un temps qui, en fin de compte, ne sert à rien, puisque quel que serait le déroulement du contenu des événements, en fin de compte, l'année, quelque grande ou petite qu'elle soit, si elle se répète à l'échelle de l'éternité, il ne s'est jamais rien passé. Il n'y a pas de chidouche dans l'année de Shana. Tandis que le terme qui désigne le mois lunaire, c'est-à-dire le temps pensé dans la catégorie lunaire, et donc, comme nous le verrons tout à l'heure, de l'être diminué, eh bien, la racine aussi, c'est la racine Echadesh, Chodesh, le mois, Echadesh, signifie renouveler, mais dans le sens de renouvellement qui fait apparaître quelque chose d'autre. Et d'un renouvellement où chaque chose renouvelée est elle-même de façon spécifique. Il y a le mot de Ehad dans Hadesh, beaucoup plus que Sheni dans Shana, Had dans Ehad. C'est-à-dire, à chaque renouvellement, l'être qui se renouvelle se retrouve spécifiquement nouveau, autre, tout en étant même, mais non pas répété. C'est la notion de Chidush opposée à celle de Shinui. Shinui, c'est une altération. Tandis que chinouche, c'est vraiment un renouvellement. Ces deux catégories-là sont différentes. Alors l'hébreu désigne le temps de l'année solaire par shana et le temps du mois lunaire par chodesh. D'un côté, il y a chinouche, de l'autre côté, il y a chinouche. Or, nous avons un midrash très important qui nous dit que le temps des nations, c'est-à-dire des civilisations, est compté selon le soleil, alors que le temps d'Israël et compté selon la lune. C'est un midrash qui se retrouve sous différentes formes d'ailleurs dans l'ensemble de la littérature midrashique et qui correspond à la notion suivante. Chacune des grandes civilisations que la tradition appelle les malchouyot, les empires, et les empires vraiment dans le sens de empire, dans le sens politique du mot empire, les grands cycles culturels, eh bien se développent à la manière de l'année solaire. Une naissance, une apogée, un déclin, une fin, et cela cède la place à une deuxième année, à une autre civilisation qui a elle aussi une naissance, une apogée et une fin. En fin de compte, qu'à la limite, le mythe solaire représente l'histoire d'une civilisation. C'est pourquoi le Midrash nous dit le temps des nations est compté selon le soleil. C'est-à-dire à la manière dont l'année solaire naît, grandit, meurt, ressuscite, mais recommence sans qu'il se passe rien. Bien sûr, c'est très différent. Le contenu des états des événements, le cycle de la civilisation égyptienne, le cycle de la civilisation perse, le cycle de la civilisation romaine, ce qui s'est passé dans le dedans du contenu de détails, quel était le menu du petit déjeuner du matin ou du dessert du soir, tout cela était très différent, mais ça n'a aucune importance. C'est la même chose qui se passe, et en fin de compte, il ne se passe rien puisque ça se passe la même chose. Et lorsque apparaît cette notion que dans le temps des nations, il ne se passe rien, il ne s'est jamais rien passé. C'est cela que ça signifie. Dans le temps qui se répète analogue à lui-même, il ne se passe rien. Il n'y a pas de toldot, il n'y a pas d'engendrement. Et d'ailleurs, comme nous verrons, les engendrements, c'est par rapport aux phases de la lune, puisque c'est le temps de la femme. Alors que dans le temps du soleil, le temps des nations, le temps des civilisations, il n'y a jamais eu d'engendrement, il ne s'est jamais rien passé. Il y a ce mythe de la naissance, de l'apogée, le temps de la gloire et de la mort. Et puis ça recommence. Je disais, quand je parle de ces choses souvent, qu'il semble que la mentalité de l'homme profonde est ainsi faite qu'elle connaît ces catégories, semble-t-il, de façon spontanée, et que, à la limite, c'est peut-être un peu l'explication du mythe du roi soleil. Je veux dire, c'est très simple, dans la civilisation occidentale, il est indéniable que l'apogée a dû être au XVIIe siècle, et c'est le siècle du roi soleil. C'est très contingent, tout ça, évidemment, c'est une coïncidence, mais enfin, c'est quand même une coïncidence. Que les cultures disent d'elles-mêmes ce que la Gemara en dit, mais enfin, avec un autre sens. Et vous voyez toutes les implications de ce problème. Alors que dans le temps de la Lune, il y a un renouvellement perpétuel qui garantit une permanence laquelle traverse le temps du Soleil, le temps de l'année solaire. L'identité de la Lune, eh bien, elle a de façon très accélérée naissance, apogée, fin et recommencement, naissance, apogée, fin, de façon éternelle, Netzach Israël, de façon éternelle, et puis traversant toutes ces grandes années de ce dont, je ne sais plus si c'est Valérie qui disait, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. La Gemara le savait depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'elle était solaire. Et effectivement, chaque communauté d'Israël a, si j'ose dire, sa petite histoire, un mois lunaire, et ça va vite, n'est-ce pas ? Par comment vous dire, enfin, l'Espagne, ce qu'on appelle les foyers culturels, par exemple, dans l'histoire de la Gola, bien, il y a eu l'Espagne un mois, et puis la Pologne, la Russie, la Roumanie, l'Égypte, ça va beaucoup plus vite que les grands cycles de civilisation des Gaulines, l'Égypte, la Perse, Rome, la Grèce, c'est beaucoup plus dense, lent. Mais avec cette différence, qu'une fois que c'est mort, il reste des musées et des livres et des souvenirs, mais c'est pratiquement toujours les mêmes. Alors, il y a des spécialistes qui disent qu'il y a des différences, mais ça change quoi, quoi. Et alors que dans le temps de la Lune, eh bien, c'est cette notion de la permanence de l'identité d'Israël qui se renouvelle à travers. Et nous aurons énormément de Midrashim qui reprennent ce thème, que les temps commémorés, les événements commémorés dans le calendrier hébreu sont toujours commémorés au temps de la pleine lune, ou de la nouvelle lune, c'est le premier du mois, le 14 du mois. Eh bien, c'est Midrashim qui nous montre qu'il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, parce que c'était l'apogée, et toute la série de textes qui convergent autour de ce thème, le temps des nations est rapporté au soleil, et le temps de la lune est rapporté à Israël. Alors Dieu dit à la lune, eh bien, voici la compensation qu'on te donnera. Non seulement tu éclaireras la nuit quand il n'y a pas de lumière, mais tu éclaireras aussi pendant le jour. Alors la lune répond, Amrale, la lune dit à Dieu, Maïribouté, qu'est-ce que j'aurai de plus? Desharga betira, Mayahane, une lampe en plein midi, qu'est-ce que ça va faire? Voici quel est le sens de cette réponse de la lune. Le sens de la compensation d'abord que lui propose le soleil, je voudrais le formuler, que Dieu le propose à la lune, en lui disant, non seulement tu éclaireras pendant la nuit, et vous savez, quand le monde est dans la nuit, quand il n'y a pas de lumière, quand il n'y a pas d'illumination, alors le message d'espérance vient toujours d'Israël, d'une manière ou d'une autre. Ça vient de l'Orient. On dit s'orienter, parce que c'est de là que ça vient. Et l'histoire a montré que, finalement, le diagnostic des goyim, le diagnostic des nations, c'est que quand il fait nuit et que la lumière pointe, eh bien l'étoile apparaît dans le ciel d'Israël. Enfin, vous comprenez l'image. Et c'est ce que Dieu dit. Bon, ton rôle, c'est quand il fait nuit. Eh bien, on va te donner une compensation. Tu éclaireras aussi quand il fait jour. C'est-à-dire pendant le déroulement aussi des grands cycles de civilisation, si j'ose dire, on parlera aussi de tes valeurs. Vous savez comme nous avons des livres comme ça, les valeurs permanentes de ce rêve, en plein essor de la pensée de telle ou telle culture des nations. Alors la Lune répond, ma hérédité, selon Dieu, il y a un hommage. Il dit, ben, je te propose cela. Mais la Lune dit, à quoi ça sert? S'éclairer d'une lampe en plein jour, ça ne sert à rien. Ça veut dire, bien sûr, je participerai un peu à l'histoire, mais l'histoire, c'est l'histoire des autres. Ça, la plainte. Vous voyez, cette condition de celui qui est autre, comme nous allons le voir, pour que l'histoire se fasse. Mais l'histoire se fait chez l'un, et c'est lui qui est l'autre. Alors on le console en lui disant, il n'y aurait pas d'un sans toi. Mais la réponse est, et quelle est cette consolation? Est-ce que j'arrive déjà peut-être à vous faire comprendre ce qui se passe? Amralé, donc, Maïri Bouté, qu'est-ce qu'il y a de plus? Des chargas de Kiyara, Mayan. Amarla, alors il lui dit, Zil, va, l'imnu, bar, Israël, Yamin, Beshami. Israël comptera son temps d'après toi, les jours et les années, et pas seulement les jours par rapport au mois et les années par rapport au soleil. Qu'en réalité, c'est bien par rapport à toi que le temps de l'histoire d'Israël sera compté. Amrale, Yomaname, Yeshar de la Manu Beshkufta, Dirti, Beayu, Leotot, le Moadim, ou Yamin, Beshanim. La réponse ici de la Lune consiste à dire, bon, bien que nous sachions déjà qu'il ne se passe rien dans le temps du soleil, mais malgré tout, les jours aussi sont comptés. Il y a une histoire, sinon des engendrements, des toldot, l'histoire messianique vraiment, l'histoire signifiée. Mais il y a une histoire des événements qui est par rapport au jour, et par conséquent, la compensation proposée ne signifie pas. Ce que nous, je pense que c'est inutile d'analyser trop longuement, mais ce que nous vivons effectivement à travers le temps, et dans la relation entre le temps d'Israël et le temps des nations. Tout se passe comme si dans le judéo, quelque chose qui a toujours été la condition historique de l'identité d'Israël, eh bien c'est le quelque chose qui vient après le trait d'union, qui n'a jamais été un trait d'union, un trait de désunion, qui est plus important que le judéo quelque chose. C'est un peu le sens de cette réponse de la Lune. Alors, Dieu répond, Zil, Likru, Tzadike, Bishmer, va, les justes seront nommés de ton nom. Yaakov Akatam, Shmuel Akatam, David Akatam. Ici, on change de registre. Ce n'est plus une discussion métaphysique, ontologique, théorique. Dieu tente de convaincre la Lune qu'elle doit accepter d'être diminuée, la Lune qui était primitivement égale, donc avant, au niveau du projet, qu'elle doit accepter la diminution, puisqu'elle a compris qu'il fallait faire quelque chose. De telle sorte que l'histoire commence, Dieu tente de convaincre la Lune qu'il y a une cohérence, une signification, une justification, et qu'il y aura une compensation. Et la Lune répond, pourquoi ne pas être frappé de cette lucidité simple? La Lune répond, toutes ces compensations que tu me proposes n'en sont pas. Alors Dieu, dans ce dialogue, change de niveau. C'est le niveau de la morale qui va être abordé. Va, les justes se nommeront de ton nom. Le fait d'être juste est relié à l'idée de accepter d'être la moindre, d'être l'autre de l'un. C'est l'autre, c'est l'histoire sera chez l'autre. Et le juste est celui qui guidera cette histoire ou l'éclairera, la sanctifiera, mais l'histoire, c'est l'histoire de l'autre. Et la suite du récit montre que la Lune n'est quand même pas satisfaite. Chazaye, Delaka, Metifta, Dachta. Alors Dieu l'a vu que Mitva, Dachta. J'ai dit Metifta, c'est des souvenirs. Dieu a vu qu'elle n'avait pas l'esprit en repos. Alors, c'est là que nous atteignons le sommet de l'enseignement, mais je veux revenir un peu en arrière pour ouvrir une petite parenthèse. Nous verrons tout à l'heure, si nous avons le temps, que malgré tout, il y a une raison pour laquelle on a choisi ces trois exemples de justes. Yaakov Akatam, Shmuel Akatam, David Akatam. Les justes se nomment et par cette vertu d'accepter l'humilité qui constitue pas une humilité dans le sens purement moussard, hein, dans le sens de vertu quotidienne, de la halava, de l'humilité, mais plus que ça, d'accepter d'être le petit du monde, de telle sorte qu'il y a un monde, et bien que l'histoire, c'est chez l'autre que cela se passe. Pour Israël, nous avons dans la liturgie cette formule très précise. Israël, l'assemblée d'Israël dit d'elle-même, Ahot Ketana, la petite sœur, enfin, les grandes sœurs, enfin les grandes puissances, comme on dit. La petite chose, d'accepter cette diminution. Et pourquoi ces trois, juste en particulier, Yaakov, Shmuel, David? Bien, si nous nous reportons aux autres analyses que nous avons vues déjà hier et avant-hier concernant l'enfant du couple réussi, alors vous situez déjà Jacob, et vous comprenez pour les autres, c'est lorsque Isaac et Rebecca ont réussi la relation du couple que Jacob peut naître, de même pour Shmuel, de même pour David, ils sont, si j'ose m'exprimer ainsi, des justes réussis procédant d'un couple réussi. Ce sont les étapes de qui est selon, vous voulez, ce progrès de la relation autrui, telle qu'elle a réussi au niveau du couple des parents, alors Jacob peut naître, David peut naître, et Shmuel peut naître, David peut naître. Vous référez au contexte de l'histoire de leur famille. Il s'est passé quelque chose au niveau de leurs parents qui fait qu'eux ont été le Et Dieu voit quand même qu'elle n'est pas satisfaite. Alors, Amar HaKadoshBaruchHu, Heviu Kafara Alai, Shemi'ati Tayareach. Alors Dieu dit, vous apporterez pour moi un sacrifice d'expiation parce que j'ai diminué la vie. C'est une formule énorme. Dieu dit, dans la loi, vous apporterez pour moi un sacrifice d'expiation parce que j'ai diminué la vie. De quel sacrifice d'expiation il s'agit? Il s'agit du korban, du sacrifice de kapara, qui était porté au temple chaque jour de Rosh Chodesh. C'est-à-dire le sacrifice d'expiation du Rosh Chodesh. Il y a en effet une particularité dans le verset qui institue ce sacrifice de Rosh Chodesh. Pour tous les autres sacrifices, la Torah, dans la formule qui institue le sacrifice en question, dit l'Hashem Korban, pour Dieu tel sacrifice. Le commentateur explique qu'il faut d'abord que l'intention de l'offrande du sacrifice soit cachère, si j'ose dire, soit précisée, d'abord savoir à qui on donne l'offrande, et ensuite l'offrande est demandée. Tandis qu'ici, il y a une formule précisément, uniquement pour le sacrifice de Rosh Chodesh, la formule inverse. Sa'ir l'Hashem. Comme si, la formule étant inversée, comme si ça signifie littéralement que ce sacrifice n'est pas apporté à Dieu, mais pour Dieu. Et nous abordons là cette idée extraordinaire du fait qu'il y a quelque chose à pardonner à Dieu. Nous allons immédiatement essayer d'éclaircir cet enseignement. D'Ama Rabbi Shimon ben Lakish, Man Ishtana Sa'ir, Shel Rosh Chodesh, Sheneemar Bo, Lashem, Sa'ir Hashem, Amar Rabbi Baruch Hu, Sa'ir Ze Yehe Kapara, Al Shemi'ashi Et Ayareach. Dieu a dit, ce sacrifice de Rosh Chodesh sera l'expiation du fait que j'ai diminué la vie. Du point de vue de l'enseignement de la Halakha, la Kavana, l'intention de ce sacrifice de Rosh Chodesh, était pour l'expiation du mal ou des fautes dont personne ne connaît ni la cause ni le responsable. Et plus encore, c'est du mal qui se passe dans le monde et que personne ne sait qu'il se passe. Et nous devons donc relier ces deux notions. Il y a une sorte de malheur qui s'attache au monde, qui est perçu surtout dans la condition qui s'attache à celui qui est l'autre de l'un, et lorsque le mal procède de cette catégorie nécessaire pour que le monde puisse exister, alors la Torah nous dit qu'on offre un sacrifice d'expiation précisément le jour de la nouvelle lune, parce que cela se relie au fait qu'il y a un être diminué pour que le monde existe, dans ce thème modèle qui nous est donné entre les deux luminaires à l'origine, et donc que ces deux notions sont reliées. Le fait qu'il y ait dans le monde du mal dont personne n'est responsable, cela se relie au fait que pour que la créature soit, il faut qu'elle soit imparfaite, Et par conséquent, c'est Dieu lui-même qui revendique cette responsabilité. Il y a dans le monde des choses qui se passent, qui sont mal, dont personne n'est responsable, dont personne n'est coupable, si vous voulez, parfois même à la limite qu'on ignore, et voilà que c'est cela la kavana du sacrifice de Rosh Chodesh. Je crois qu'on peut relier cela, effectivement, au thème de la condition qui, existentielle qui s'attache à la réalité du couple. Pour qu'il y ait couple, il est inévitable qu'il y ait une diminution d'être quelque part. Cette diminution est la raison d'être du monde même, et la cause métaphysique même du monde, et par conséquent, assumer l'existence, c'est premièrement ne pas avoir à se plaindre de cela. Peut-être c'est là la définition de la piété. La définition de la piété, c'est diagnostiquer cela. Pour que nous existions, il fallait qu'il en soit ainsi. Et nous savons que c'est mal, mais personne n'en est responsable, au point que Dieu lui-même dit, le sacrifice est pour moi. Et pas dans le sens de « à moi », mais de ma part. Effectivement, je crois que ça peut éclairer notablement le problème que nous nous étions posé. Et en effet, nous avons vu que la créature, tant chez l'homme que chez la femme, et par rapport au modèle d'identité dont nous avons exigence, et qui pour nous croyants est reporté au monde de la plénitude, au Olam Haba, qui pour les non-croyants, lorsque le problème est vraiment rencontré face à face, mène à la conscience tragique, le fait qu'il s'attache à l'existence humaine, une impossibilité de coïncider avec soi-même, avec ce que chacun a en soi d'exigence d'être de plénitude, eh bien, cette condition de diminution s'attache tant à l'homme qu'à la femme, mais malgré tout, nous voyons que la Gemara va plus loin et nous montre qu'inévitablement, il y a un côté qui sera diminué par rapport à l'autre. Et au fond que, bien évidemment, cette définition de la piété qui se formule ici est originellement féminine. C'est la piété de la lune, nous dit le texte. Et ces trois étapes sont extrêmement importantes. Première étape, une discussion philosophique entre Dieu et la lune, à la limite, si vous voulez, entre Dieu et la femme, et Dieu essaye de convaincre la femme qu'elle doit être satisfaite de son sort, puisqu'il y a des compensations, elle n'est pas satisfaite, nous dit le texte. Alors deuxièmement, la morale. Le fils dépend de sa mère, et lorsque le fils sera juste, ce sera grâce à sa mère, et c'est ce que raconte l'histoire de la Torah. Ça encore, ça ne la satisfait pas. Et alors Dieu se tait, dit la Gemara, et se tourne vers les hommes et leur dit, bon, ça, sacrifice de Rosh Chodesh. Et nous allons éclairer ce thème par un petit commentaire de Tosfot que vous avez en haut de la page. Juste en haut, Amra Yareach. Bilshon Torah, dit Tosfot, dans le langage de la Torah, la Shon Zahar Hu. Yareach est au masculin. Dirtiv, puisqu'il est écrit dans Yoshéa, le prophète Osée, le Yareach Hamad. Et la lune s'est arrêtée, mais c'est au masculin. Bon. Alors, lorsque nous comparons la densité dramatique du texte de la Gemara que Tosso vient commenter avec cette apparente petite question de grammaire, on est étonné. Il y a là un drame qui est développé en six lignes, un drame considérable. Dieu parle de ce que lui pense de la condition d'autrui. Lorsque la condition d'autrui est malheureuse, métaphysiquement, en tant que condition d'existence, et de quoi Tosfot nous parle? De la question de savoir si le mot Yareach est au féminin ou au masculin. Bon. C'est qu'il y a autre chose derrière. Regardez bien le verset que cite Tosfot. Ce verset que cite Tosfot indique que lorsque la lune est au masculin, elle s'arrête. C'est-à-dire le temps s'arrête. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de monde. C'est-à-dire que la condition qu'il se passe quelque chose dans le temps et dans l'histoire de la créature, c'est qu'un des deux luminaires devienne la lune dans le langage de ce texte. Et dans le principe, c'était la chambre de Khar, c'était masculin. Mais c'est quand ça s'arrête que c'est masculin. Et par conséquent, apparaît là, un éclairage extrêmement...